Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 4, scène 4. L'empereur envoya ensuite chercher Balakoff, lui lut sa lettre, le chargea d'aller la remettre en personne à l'empereur des Français, et, lui répétant de nouveau les paroles qu'il lui avait dites au bal, lui ordonna de les rapporter telles quelles à Napoléon. Il ne les avait pas mises dans sa lettre, comprenant qu'il n'était pas convenable de les prononcer au moment où il faisait une dernière tentative pour le maintien de la paix. Mais il réitéra l'ordre à Balachoff de les dire textuellement à Napoléon lui-même. Partant aussitôt avec un trompette et deux cosaques, Balachoff arriva, au point du jour, au village de Riconti, occupé par des avant-postes de cavalerie française en deçà du Niémen. Un sous-officier de hussards, en uniforme amarante et coiffé d'un colbac, lui cria de s'arrêter. Balachoff se borna à ralentir le pas. Le sous-officier s'avança vers lui en lui marmottant un juron d'un air irrité et, tirant son sabre, lui demanda grossièrement s'il était sourd. Balachoff se nomma. Le Français, en voyant alors un de ses hommes chercher l'officier qui commandait le poste, reprit sa causerie avec ses camarades, sans plus faire attention à l'envoyé russe, qui éprouva un sentiment étrange en subissant, personnellement et dans son pays, cette manifestation irrespectueuse de la force brutale, si nouvelle pour lui, habitué aux honneurs et en rapport constant avec le pouvoir suprême, pour lui qui venait de causer pendant 3 longues heures avec l'empereur. Le soleil perçait les nuages, l'air était frais et imprégné de rosée. Le troupeau du village s'en allait au champ, où les alouettes s'élevaient dans l'espace, en gazouillant, l'une après l'autre, comme des bulles d'air qui montent à la surface de l'eau. Balachoff, en attendant l'officier, suivait leur vol d'un regard distrait, pendant que les cosaques et les hussards échangeaient en silence des clins d'œil furtifs. Le colonel français, qui venait évidemment de se lever, parut enfin, suivi de 2 de ses hussards, et monté sur un beau cheval gris, bien soigné et bien nourri. Les cavaliers et leurs chevaux avaient une tournure élégante et respiraient le bien-être. Ce n'était encore que la première période de la guerre, la période de la tenue d'ordonnance, la période de l'ordre comme en temps de paix, à laquelle se mêlait pourtant une allure plus guerrière que de coutume, et cet entrain et cette gaieté qui sont l'accompagnement habituel des débuts d'une campagne. Le colonel étouffait avec peine des bâillements, mais il fut poli envers Balachoff, car il se rendait compte de son importance. Il lui fit franchir les avant-postes et l'assura que, vu la proximité du quartier général de l'empereur, son désir de lui être immédiatement présenté ne s'offrirait aucune difficulté. Traversant ensuite le village, au milieu de piquets de hussards, de soldats et d'officiers qui lui faisaient le salut militaire, et regardait avec curiosité l'uniforme russe, ils sortirent par l'extrémité opposée. À 2 verstes de là campait le général de division, qui devait se charger de conduire l'envoyé d'Alexandre jusqu'à sa destination. Le soleil était levé et éclairait gaiement les champs et les prairies. À peine eurent-ils dépassé le cabaret situé sur la hauteur, qu'ils virent venir à eux plusieurs militaires, en avant desquels s'avançait, monté sur un cheval noir, dont le harnachement étincelait au soleil, un homme de haute taille. Un manteau rouge jeté sur les épaules, les jambes tendues en avant à la manière française, il était coiffé d'un énorme chapeau, par-dessous les bords duquel s'échappaient des boucles de cheveux noirs. L'air faisait onduler le plumet multicolore de sa coiffure, et les galons d'or de son uniforme scintillait aux rayons ardents du soleil de juin. Balachoff ne se trouvait plus qu'à quelques pas de distance de ce cavalier à l'aspect théâtral, tout chamarré d'or et couvert de bracelets et de bijoux de toutes sortes, lorsque le colonel Yulner lui murmura à l'oreille
« Le roi de Naples ».
C'était en effet Murat, qu'on appelait ainsi, bien qu'il fût impossible de comprendre pourquoi dans ce moment il était le roi de Naples. Lui-même, du reste, se prenait tellement au sérieux que lorsque, la veille de son départ de Naples, en se promenant dans les rues avec sa femme, il entendit quelques Italiens crier « Viva il re !» il dit avec tristesse
« Les malheureux, ils ne savent pas que je les quitte demain. »
Malgré son intime conviction qu'il était bien toujours le roi de Naples et que ses sujets pleuraient son absence, il reprit gaiement, au premier signal de son auguste beau-frère, la besogne qui lui avait été familière.
« Je vous ai fait roi pour régner à ma manière et non pas à la vôtre. »
lui avait dit ce dernier à Dantzic. Et, pareil à un bel étalon qui folâtre même sous le harnais, il galopait sur les routes de la Pologne, paré des couleurs les plus voyantes et les plus riches bijoux, sans s'inquiéter, dans sa bruyante bonne humeur, de savoir où il allait. En apercevant le général russe, il rejeta majestueusement sa tête bouclée en arrière, d'une façon toute royale, et regarda le colonel français en le questionnant du regard. Celui-ci expliqua respectueusement à Sa Majesté ce que voulait Balachov, dont il ne parvenait pas à prononcer correctement le nom.
« De Balmachev ?»
dit le roi en surmontant avec sa résolution habituelle la difficulté qu'avait éprouvée le colonel de Hussards.
« Charmé de faire votre connaissance, général !»
ajouta-t-il d'un geste plein de grâce. Mais dès que la voix de Sa Majesté devint plus haute et plus vive, il perdit subitement toute sa dignité royale et passa sans transition au ton qui lui était habituel, celui d'une bienveillante bonhomie. Passant la main sur le garrot du cheval de Balachov,
« Eh bien, général, tout est à la guerre à ce qu'il paraît. »
Comme s'il regrettait la nécessité de ce fait, qu'il ne se permettait pas de juger.
« Sire, l'empereur mon maître ne désire pas la guerre, et comme votre majesté le voit... »
poursuivit Balachov en lui donnant exprès à chaque mot, avec une affectation marquée, une qualification royale qu'il sentait lui être particulièrement agréable dans sa nouveauté, à en juger par la joie comique qui se peignait sur son visage. Royauté oblige. Aussi Murat crut-il de son devoir de deviser avec M. de Balachov, ambassadeur de l'empereur Alexandre, sur les affaires de l'État. Descendant de cheval et lui prenant le bras, il se mit à causer et à marcher avec lui de long en large, en s'efforçant de donner de l'importance à ses paroles. Il lui dit entre deux choses que l'empereur Napoléon, offensé par la demande qu'on lui avait adressée de retirer ses troupes de la Prusse, l'était surtout de la publicité donnée à cette exigence, qui froissait la dignité de la France. Balachov lui répondit que cette exigence n'avait rien de blessant parce que... Mais Murat ne lui donna pas le temps d'achever.
« L'instigateur n'est donc point, selon vous, l'empereur Alexandre ?»
demanda-t-il subitement et avec un sourire gauche. Balachov lui expliqua les raisons qui le forçaient à considérer Napoléon comme le fauteur de la guerre.
« Eh, mon cher général, je souhaite de tout mon cœur que les empereurs s'arrangent entre eux et que cette guerre, commencée malgré moi, se termine le plus tôt possible. »
poursuivit Murat, à la façon des serviteurs, qui désirent rester amis malgré la querelle de leur maître. Il s'informa ensuite de la santé du grand-duc, parla du temps qu'ils avaient si joyeusement passé ensemble à Naples, puis, se ressouvenant de sa haute dignité, il se redressa avec solennité, se posa comme il l'avait fait le jour de son couronnement, et, faisant un geste de la main,
« Je ne vous retiens plus, général. Je vous souhaite tout le succès possible. »
dit-il en rejoignant sa suite, qu'il attendait respectueusement à quelques pas en arrière. Et le manteau rouge brodé d'or, les plumes flottant au vent et les pierres fines jetant mille feux au soleil, disparurent dans le lointain. Balachov, croyant trouver Napoléon à peu de distance de là, continua son chemin, mais, arrivé au premier village, il fut arrêté cette fois par les sentinelles du corps d'infanterie de Davout. Et l'aide de camp du chef de corps le conduisit jusqu'à l'habitation du maréchal.